VOA Afrique, les infos à Washington.
Bonjour à tous, Jean-Roger Billon à ce micro, il est 11h en temps universel. L'Afrique du Sud rend hommage ce mardi à l'esprit de combat de Winnie Mandela et se préparait à organiser plusieurs événements consacrés à la vie de cette militante acharnée contre le régime d'apartheid et ex-femme de Nelson Mandela. Des sympathisants qui avaient commencé à se réunir devant son domicile après l'annonce de son décès lundi continuaient à affluer aujourd'hui devant sa modeste maison en briques rouges dans le township de Soweto pour lui rendre hommage.
Le président sud-africain Cyril Ramaphosa, dans une brève allocution télévisée, a déclaré « Nous avons perdu une mère, une grand-mère, une amie, une camarade, une meneuse ». L'ANC au pouvoir a fait l'éloge d'une femme qui symbolisait la force, la résistance et une âme éternelle de la liberté. Le prix Nobel de la paix Desmond Tutu a salué un symbole majeur de la lutte anti-apartheid. En 1958, Nomzamo Winifred Zaniwe Madikizela épouse Nelson Mandela. Son mari sera condamné en 1964 à la prison à perpétuité et pendant ses 27 ans de prison, Winnie deviendra l'icône de la lutte contre l'apartheid. Une image ternie par ses frasques, son discours violent et les accusations de meurtre contre ses gardes du corps. À la sortie de prison de Nelson Mandela en 1990, elle marche main dans la main à ses côtés dans une image qui fera le tour du monde. Mais leur divorce est prononcé en 1996. À sa mort en 2013, Nelson Mandela, qui s'était entre-temps remarié avec Graça Machel, ne lui a rien légué. Winnie, amère, a même saisi la justice sans obtenir satisfaction.
Le président sud-africain Cyril Ramaphosa, patron du Congrès national africain, le parti au pouvoir à la pointe de la lutte anti-apartheid, lui-même a salué donc cette voie du défi et de la résistance. La nation lui rendra hommage lors d'obsèques officielles. Ce sera le 14 avril, selon le président. Les résultats du second tour de la présidentielle en Sierra Leone sont attendus d'ici à jeudi maintenant, soit avec un retard de quelques jours dû à des désaccords entre les candidats sur la méthode de dépouillement. C'est ce qu'a annoncé hier l'ANEC, la commission électorale du pays. Jacques Aristide.
La commission a dû interrompre brièvement le dépouillement des bulletins de vote pour régler un désaccord sur la manière, manuelle ou à l'aide d'un logiciel, de compiler les résultats au niveau des centres régionaux. 48 heures après la fermeture des bureaux de vote, la NEC n'avait donné aucune indication sur le résultat qui s'annonçait serré selon des analystes interrogés avant le scrutin qui s'est tenu le 31 mars avec 4 jours de retard sur le calendrier initial. Au premier tour, le candidat de l'opposition, l'ancien militaire Julius Maada Bio, avait remporté 43,3% des suffrages, soit une avance de 15 000 voix sur Samora Camara, candidat du parti au pouvoir, qui avait remporté 42,7% des suffrages. Hier, les deux finalistes, après des heures de négociations, sont parvenus à un compromis et le dépouillement a pu reprendre. Monsieur Bio et M. Camara se sont donné l'accolade devant les caméras à l'issue de cette réunion de conciliation, alors que leurs deux partis se sont mutuellement accusés de vouloir faire monter la tension. Tous deux ont lancé un appel à la patience et au respect des résultats qui seront proclamés.
Amnesty International a appelé aujourd'hui les autorités maliennes à faire la lumière sur des exécutions extrajudiciaires dans le centre du Mali où 6 corps ont été retrouvés dans une fosse commune la semaine dernière. Amnesty indique avoir recueilli des témoignages selon lesquels ces 6 corps découverts dans une fosse commune le 25 mars étaient ceux de personnes arrêtées 3 jours auparavant par l'armée dans le village de Dogo et emmenées vers une destination inconnue. Le président guinéen Alpha Condé et le chef de l'opposition Sélou Dalein Diallo ont conclu lundi un accord pour résoudre le contentieux sur les résultats des élections locales du 4 février et mettre fin aux manifestations, ont annoncé les deux partis. Messieurs Condé et Diallo ont convenu notamment d'une série de mesures pour désamorcer la tension, notamment par la mise en œuvre de l'accord politique conclu en octobre 2016 entre le pouvoir, l'opposition, la société civile et les partenaires internationaux de la Guinée. Le président américain Donald Trump a félicité son homologue égyptien, un important allié de Washington dans la région, a indiqué la présidence égyptienne dans un communiqué. Les États-Unis ont assuré qu'ils étaient impatients de continuer à travailler avec M. Sisi pour faire avancer notre partenariat stratégique selon le département d'État. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a été réélu pour un second mandat de 4 ans avec 97,08% des voix validées dans une élection sans surprise où son seul adversaire était aussi l'un de ses partisans. Un peu plus d'un électeur égyptien sur trois a voté lors du scrutin des 26, 27 et 28 mars, soit une participation de 41,5% selon l'autorité nationale des élections. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a annoncé aujourd'hui l'annulation de l'accord avec l'ONU qui prévoyait la régularisation de milliers de migrants africains en Israël et la réinstallation d'un nombre similaire dans des pays occidentaux. Après avoir entendu de nombreuses remarques sur cet accord, j'ai examiné les avantages et les inconvénients et décidé d'annuler l'accord, a affirmé M. Netanyahou selon un communiqué de son bureau. Il avait suspendu lundi soir l'application de l'accord, quelques heures seulement après son annonce. En Syrie, les forces gouvernementales se rapprochent d'une victoire totale dans la Ghouta orientale. Des rebelles ont commencé hier à évacuer l'enclave aux portes de Damas. Le point, Eric Manirakiza.
D'après la télévision d'État syrienne, 12 bus transportant plus de 620 membres du groupe radical islamiste Jaïch al-Islam et leurs familles sont sortis de Douma. Le mouvement rebelle n'a pas confirmé l'information sur ce retrait de l'ultime poche rebelle. L'opération fruit d'un accord avec la Russie devrait prendre plusieurs jours, estime l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Les groupes insurgés ont accepté un à un d'abandonner leur position après 5 semaines de bombardements intenses qui ont fait plus de 1600 morts. Le régime de Damas a dit ces derniers jours que plus de 46 000 personnes, environ un quart de combattants, ont déjà gagné la province d'Idleb dans le nord-ouest du pays. Avec ces évacuations orchestrées par Moscou, le pouvoir syrien contrôle maintenant près de 95% de la Ghouta orientale et le reste ne sera qu'une question de jours. La chute de la Ghouta marquerait une des pires défaites pour les rebelles dans la guerre qui ravage la Syrie depuis plus de 7 ans.
Les cheminots français ont entamé aujourd'hui un mouvement de grève qu'ils annoncent massif, susceptible de paralyser la France pendant 3 mois et constituant un défi majeur pour le président Emmanuel Macron et sa volonté de réformer le pays. Alors que les éboueurs et les employés du secteur énergétique étaient eux aussi en grève pour réclamer un service public national, la grogne se poursuivait également dans les airs avec une 4e journée de grève en 1 mois du personnel d'Air France qui réclame une augmentation générale des salaires. La grève très massive selon le syndicat CGT a semé la pagaille sur les rails empruntés chaque jour par 4,5 millions de Français.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Jean-Roger Billon à ce micro, nous émettons de Washington où il est 7h07. La présidente de la Cour suprême du Brésil a appelé au calme lundi. La tension étant à son comble à 2 jours d'un jugement qui pourrait envoyer l'ex-président Luiz Inácio Lula da Silva derrière les barreaux. Les incertitudes sur le sort de Lula attisent toutes sortes de tensions à 6 mois de l'élection présidentielle la plus imprévisible de ces dernières décennies. Donné en tête des intentions de vote, l'ex-président âgé de 72 ans qui a déjà dirigé le pays de 2003 à 2010 joue ses dernières cartes pour éviter de purger une peine de plus de 12 ans de prison pour corruption. L'aviation afghane accusée par l'ONU d'un bombardement meurtrier de civils, témoins et rescapés évoquaient ce mardi une boucherie au lendemain du bombardement par l'armée d'une école coranique du nord-est de l'Afghanistan soupçonnée d'abriter des talibans qui a fait au moins 100 morts et blessés principalement des civils. Le chef de la police a parlé de 72 morts, tous des ennemis. À l'inverse, des sources de sécurité ont de leur côté fait état de 59 morts, dont une majorité d'enfants parfois âgés de 8 ans et de 17 talibans, ainsi que 57 blessés acheminés à l'hôpital de Kunduz. La Birmanie a accepté une visite du Conseil de sécurité de l'ONU après des mois de résistance, mais sans établir clairement si les ambassadeurs onusiens pourront se rendre dans l'État Rakhine. Près de 700 000 membres de la minorité musulmane Rohingya qui vivaient dans l'ouest de la Birmanie, pays à forte majorité bouddhiste, ont fui en masse depuis août vers le Bangladesh sous la menace de l'armée birmane. Le chef de la diplomatie nord-coréenne est actuellement en Chine où il rencontrera son homologue chinois Wang Yi. La visite de Ri Yong-ho intervient quelques jours après la visite en Chine du dirigeant suprême de la Corée du Nord Kim Jong-un et moins de 4 semaines avant un sommet historique prévu entre les deux Corées. Jean-Roger Billon à ce micro. Nous émettons de Washington. Le prochain journal, c'est dans 50 minutes. Ce sera en compagnie de Henri Francisque. Bon après-midi.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.